Avec tout ce qui s'est passé cette semaine, on s'est dit la chose la plus importante, celle par laquelle on veut commencer. La première tentacule. Moi, je vois vraiment ça comme une espèce de bébite avec plein de tentacules. On savait pas par où la pogner. Moi, ça m'a pris plusieurs jours d'abord commencer à vraiment cerner par où je pogne ça, cette espèce de monstre-là, cette vague de dénonciation-là qui frappe le Québec depuis quelques jours. Et on a convenu finalement à tête reposée que la chose la plus importante à faire d'abord, c'était de comprendre comment on fait pour convaincre les victimes de dénoncer, pourquoi c'est important de les convaincre de dénoncer, qu'est-ce qui va se passer après la dénonciation, toutes des questions auxquelles on croit que notre prochaine invitée va pouvoir répondre. Elle travaille au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de la Rive-Sud. Madame Valérie Brancard est au bout du fil. Bonjour Madame Brancard.
Bon matin.
Alors, dites-moi, vous travaillez avec des victimes de gestes à caractère sexuel au quotidien, OK? Comment on fait pour convaincre les gens qui ne sont pas allés chercher votre ressource d'aller la chercher?
Bien, pour commencer, faut savoir que notre ressource est gratuite, confidentielle et professionnelle. Donc, okay. Ce n'est pas des bénévoles ou des femmes qui ont passé par là nécessairement qui vont vous aider. ensuite de ça, c'est sûr que je dis 50% de la guérison se fait à partir du moment où ce qu'on reçoit de l'aide ou on ose recevoir de l'aide. Puis c'est sûr que la plus grande part des femmes, peu importe de qui par rapport à la dénonciation, c'est de ne pas être cru. Donc en venant chez nous, vous partez avec un organisme qui va vous croire et qui va vous supporter, qui va vous aider.
Puis qu'est-ce qui se passe à partir du moment où parce que vous œuvrez plus auprès des femmes que des hommes. Donc, à partir du moment où il y a une femme qui vient puis qui dénonce une agression, à partir de là, que se passe-t-il?
Bon, ça dépend du type de dénonciation, parce que pour nous, de dévoiler, par exemple, une agression à sa famille, ça fait partie d'une dénonciation. C'est sûr que du moment où on en parle, dépendamment à qui on en parle, on peut recevoir des commentaires de toutes sortes. Malheureusement, c'est pas toujours facile et aidant pour les victimes que de dénoncer à leur entourage parce que soit quelqu'un va demander de tourner la page ou quelqu'un a été victime puis la personne peut s'emballer ou sinon oui on peut recevoir des commentaires super aidants puis super appuyants donc c'est un peu le hasard. La deuxième chose aussi savoir c'est que on sait pas les répercussions que ça peut avoir dans l'entourage dans le sens que ça peut éveiller des vieux souvenirs de quelqu'un comme ça peut éloigner la personne de façon involontaire parce qu'elle sait pas comment gérer ça. Fait que la personne, au lieu de vouloir t'aider ou de t'en parler, va comme s'effacer parce qu'elle se dit, ben, si je l'oublie, ça va être oublié puis tout le monde va bien aller, t'sais. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, on a la dénonciation aussi judiciaire, finalement. Ouais. Le CALAC, lui, fait de l'accompagnement judiciaire, donc moi j'appelle ça un tout inclus. La victime qui veut aller porter plainte, on va aller avec elle au poste de police, on va visiter le palais de justice, on va leur expliquer le protocole, comment ça se passe, on va faire une visite vraiment pour qu'elle s'approprie les lieux, on va être en communication avec l'enquêteur, le procureur. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile à comprendre quand on n'a jamais été là-dedans, parce que tu sais, quand tu portes plainte au service de police, c'est pas la victime nécessairement, c'est un témoin de ton agression. Ouais. Fait qu'il y a des femmes qui comprennent pas pourquoi l'enquêteur ou le procureur agissent de telle ou telle manière. C'est que c'est le système qui est fait comme ça. Puis, bon, on parlera pas des lenteurs en plus, parce que avant, quand j'ai commencé au CALAX, il y a 10 ans, j'avais 2 ans d'attente pour finir avec un procès. Puis finalement, aujourd'hui, je suis plus autour de 4-5 ans. Fait que c'est des hauts et des bas en permanence dans un processus judiciaire.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de me dire qui vont être intéressantes à décortiquer. D'abord, pour ce qui est des plaintes à la police, est-ce que je comprends donc qu'il y a des situations où il est mieux qu'une femme porte pas plainte? Ou est-ce que vous conseillez à toutes les femmes de porter plainte lorsqu'elles subissent des agressions? Comment vous discernez ça?
Je m'excuse, j'ai pas compris la question. Mon téléphone a coupé.
OK. Est-ce que toutes les dénonciations qu'une femme peut faire lorsqu'elle va chercher de l'aide dans un CALAC, est-ce que toutes ces dénonciations-là, à toutes ces femmes-là, vous conseillez d'aller porter plainte à la police?
Bon, faut savoir que seulement 10% des femmes vont porter plainte au Canada. Okay. C'est des statistiques là, qui viennent vraiment des services de police puis des CALAX. Donc, c'est 10% des plaintes. Moi, l'objectif, là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une agression sexuelle, là, c'est pas un geste sexuel. C'est une prise de pouvoir. Ouais, ce qui excite la personne dans l'agression, c'est le pouvoir. Fait que moi, quand une femme me parle de porter plainte, toujours dans l'objectif qu'elle reprenne le pouvoir sur sa vie et non pas une vengeance. Okay. Donc, c'est sûr qu'on va regarder avec la femme c'est quoi ses objectifs, on va y expliquer le processus, puis si elle a envie d'y aller, on y va. Mais c'est seulement 10 % de notre clientèle. À chaque année, on en reçoit environ 200 nouvelles demandes qui vont oser, qui vont aller vers le processus judiciaire.
Oui, dans le fond, ça m'amène à la question, le type de réparation que ces personnes-là souhaitent obtenir. Vous avez dit, vous, votre objectif, c'est que la personne, elle, fasse la paix ou en tout cas puisse guérir d'une certaine façon de l'agression qu'elle a vécue. Mais ce qu'on voit cette semaine, par rapport aux intentions des personnes qui sont là, surtout quand tu dénonces quelqu'un qui est extrêmement connu comme ça, tu es conscient du piédestal qui va s'enlever de sous ses pieds. Est-ce que le fait de dénoncer, de voir des gens perdre ce qu'ils ont, est-ce que ça, c'est une satisfaction pour la victime? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ce qu'ils recherchent en même temps?
Absolument pas. Absolument pas. En fait, la vague de dénonciation qu'on vit en ce moment, c'est les femmes se disent, les victimes se disent, OK, cette personne-là a une influence sur beaucoup de gens. Elle a beaucoup de pouvoir. Puis là, on est en force du nombre. Fait que je reprends mon pouvoir à partir de ça, puis je vais oser. Parce que, comme je vous dis tantôt, c'est la peur de ne pas être cru. C'est la peur aussi d'être jugée, parce que les victimes vivent beaucoup de honte et de culpabilité. Avec cette vague-là, en fait, ce qui se passe, c'est que ces femmes-là se disent, ben je suis pas tout seule, puis ça se peut qu'on me croit. Ça se peut qu'on me croit, donc je vais oser. Parce que c'est se battre contre une machine. Tu vas te battre contre la personne. Tu sais, on parle de personnes avec la notoriété, comme Éric Salvin, Gilbert Rozon. On regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est toutes des gens qui ont beaucoup de pouvoir d'influence. Donc, ces personnes-là vont, par leur statut, déjà écraser les victimes parce qu'elles ont le gros bout du bâton, finalement. Fait qu'avec cette vague-là, c'est comme si on a un powerful qui s'en vient, que les femmes vivent. Puis, ils vont dire, ben, je suis prête au combat, je suis prête à essayer. Fait que c'est plus dans cette optique-là, dans le sens qu'ils veulent, elles veulent pas se venger. Puis, pour parler avec des femmes à tous les jours, bien souvent, les femmes vont me dire, j'aime pas ça parce que je sais qu'il y a une femme, je sais qu'il y a des enfants. Fait que, tu sais, il ne ressent aucun plaisir dans tout ça. Puis en plus de tout ça, en plus du stress qu'elle vit, là, c'est pas le fun du tout dénoncer. Là. Mais quand on veut reprendre le pouvoir sur notre vie, quand on est une survivante, ben des fois ça passe par là, puis c'est juste correct parce que c'est illégal, hein, je vous le rappelle.
Oui.
C'est illégal. Fait que passer par le processus judiciaire, c'est comme de dire c'est assez, puis en même temps, c'est de s'enligner vers un changement de société parce que c'est une femme sur trois puis un homme sur six victimes hein, dans l'agression sexuelle au cours de sa vie. Fait que c'est tout simplement de stop à la société également. Là.
Sentez-vous, Mme Brancard, sur le terrain, depuis cette semaine, sentez-vous que tout ce mouvement-là de dénonciation a encouragé aussi certaines femmes à aller demander de l'aide parce que vous êtes sur le terrain, vous en côtoyez des femmes, des victimes. Sentez-vous que ça a un impact positif sur le nombre de femmes qui vont vers cette ressource-là?
En fait, oui. Je fais juste penser à l'époque de Nathalie Simard. On oui. avait eu une vague dans les Calax. Ça avait été très intense. L'année passée, on a eu le hashtag « On vous croit
oui. »
ou « Agression non dénoncée » qui avait fait une certaine vague aussi dans les médias. Là, je dois vous avouer qu'elle est encore plus grande. C'est sûr qu'on va le ressentir. Sauf que ce que je déplore, c'est que souvent, puis là, c'est tout à votre honneur de l'avoir fait, mais souvent, les médias vont parler des agresseurs, mais ils parleront pas des ressources. Une femme qui se retrouve devant une agression puis qui sait plus comment gérer ça, va aller chez son médecin, va aller au CLSC, elle va se faire envoyer d'un bord puis de l'autre. Moi, j'appelle ça le jeu de la balle de ping-pong. Là. Puis finalement, au bout de quelques mois, quelques années, quand les conséquences sont encore plus puissantes puis ancrées en elle, va finir par nous trouver. Et ça, c'est parce qu'on est la ressource spécialisée. Là. Donc, c'est pas évident. Là. J'ai des intervenantes, des CLSC, ou j'ai des psychologues qui nous appellent pour nous dire « Écoute, je sais pas quoi faire avec ça. » Puis c'est une problématique particulière parce que c'est souvent avec beaucoup de conséquences. On parlait de toxico, d'idées suicidaires, on parlait d'automutilation. Donc, c'est pas simple là, comme problématique. Fait que c'est important que les ressources soient montrées aussi. Là.
Et là, le gouvernement a annoncé 1 million $. Est-ce que vous allez voir la couleur de cet argent-là? Parce que lorsqu'une femme se présente chez vous, là, le suivi, là, c'est pas juste une rencontre. Là. Vous les accompagnez pendant un certain temps.
Oui, ben en fait, le 1 million, j'ai bien hâte de voir comment il va être divisé. C'est sûr qu'on est content qu'il y ait de l'argent qui descende pour gérer la crise, mais moi, la journée que j'embauche une employée parce qu'on veut pallier à cette crise-là, ben après ça, je la perds.
Oui, c'est ça.
C'est une ressource qui se retrouve avec Moi, ça fait un an que j'ai une liste d'attente là, à Lévis. Là. Ça fait un an qu'on a une liste d'attente puis qu'on n'est pas capable de la vider parce que depuis un an, on a vraiment un boom. Ça fait un an qu'on embauche des personnes par là puis qu'ils font 4-6 mois pour faire de la prévention, de la sensibilisation, mais qu'on va perdre. Fait que c'est 1 million divisé par environ 35-40 calacs, sans compter toutes les autres ressources qui sont équivalentes comme pour les enfants ou pour les hommes. Sport-Aid, c'est un nouvel organisme pour aider les personnes qui du milieu sportif qui ont reçu un bon montant aussi récemment. Donc, on est beaucoup, beaucoup. Fait que ça va être quoi? Ça va représenter quoi dans notre organisme? Fait que oui, on est content. Oui, on est content que le gouvernement trouve les yeux, mais c'est pas suffisant pour du long terme. Puis
c'est un diachylon,
à 4-5 dans une équipe, c'est pas assez. Non? Moi, je couvre la moitié de chasseur à palage.
Ouais. Ah oui. Et vous accompagnez des victimes au quotidien. Vous en avez accompagné au palais de justice, vous le disiez. Est-ce que vous croyez que le système de justice, comme il est fait actuellement, qui nécessite qu'on fasse témoigner les victimes, puis qui sont questionnées, puis qui doivent revivre certaines... Est-ce que vous jugez que le système, comme il est actuellement, il est adéquat?
Absolument pas.
Qu'est-ce qu'il faut changer?
Ben en fait, on a eu d'ailleurs un gros débat par rapport au modèle de Philadelphie, là, à savoir est-ce qu'on doit impliquer les organismes en violence auprès du service de police, par exemple, parce que on va se le dire, là, les policiers, c'est pas des intervenants. Hein? Ils comprennent-tu, par exemple, pourquoi une femme victime de violence conjugale ou d'agression sexuelle, d'inceste, va rester auprès de son agresseur ou de son l'homme qui est violent envers elle. Non, la plupart du temps, non, ils ne comprennent pas. Fait qu'on va partir avec des préjugés, on va tasser le dossier. Après ça, le Philadelphie, en fait, va réouvrir des dossiers. Donc, il y a une lacune au niveau de comprendre la problématique. La deuxième chose, c'est, la lenteur du service qui fait qu'il y a des femmes qui vont décider de ne pas porter plainte parce qu'ils disent, moi, je ne veux pas vivre avec 4-5 ans d'attente, de stress, puis de pas savoir si les gens finalement vont me croire. Parce que quand on parle, par exemple, d'une victime d'inceste, t'es 4-5 ans à porter une plainte contre ton père ou ton homme, ton oncle, sans avoir eu de jugement, mais c'est 4-5 ans où la famille dit que tu délires puis que tu pointes du doigt. C'est pas toujours évident. Hein?
Ah, non, c'est...
Puis en plus de ça, ben c'est ça qu'il y a des améliorations quand on regarde au niveau des enfants, de la déficience intellectuelle, qui sont filmés à place de témoigner, qui vont, tu sais, il y a des nouvelles approches. On parle du chien de soutien aussi qui va aider des victimes qui ont un choc post-trauma ou qui vivent beaucoup de stress. C'est pas assez. C'est pas assez. Puis le fait que ces femmes-là soit en attente aussi longtemps, c'est aussi au fait qu'il n'y a pas assez de procureurs, il n'y a pas assez de juges, il y a une lenteur dans le service, ouais. C'est épouvantable.
Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement et qui sentent qu'ils ont été victimes de gestes inappropriés, d'agressions quelconques, comment on fait pour rejoindre les CALAC? Internet, téléphone, l'adresse, comment on s'y prend?
Bon, ben, pour commencer, les CALAC, il y en a partout dans la province. Donc, on a un regroupement québécois des CALAC qui peuvent, avec leur site Internet, vous diriger vers le bon endroit. Sinon, ce que je dis à tout le monde, c'est appelle-nous. Puis nous, on va t'envoyer à la bonne place. Donc, le CALAC de la Rive-Sud va couvrir la moitié de Chaudière-Appalaches, mais on est en lien avec toutes les autres CALAC, donc il n'y a aucun problème. Donc, on peut nous rejoindre soit par Internet, soit par téléphone, ou même notre page Facebook qui est très, très active, puis qu'il y a une intervenante qui parle en privé avec les gens, il n'y a aucun problème. Donc, c'est le CALAC, C-A-L-A-C-S, Rive-Sud. Et le numéro de téléphone, c'est le 418-835-8342.
Merci beaucoup, Mme Brancard, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions ce matin.
Merci.
Valérie Brancard est intervenante au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de la Rive-Sud.
J'ai couvert un procès, Paul, dans les derniers mois à Trois-Rivières. Il a été reconnu coupable, donc je peux affirmer ce que j'ai entendu.
Oui.
La victime a témoigné pendant 3 jours. Trois jours complets.
Donc, c'est pas des journées de 3 heures, là. C'est
non.
Des longues journées.
Et lui, il était accusé d'agression sexuelle, mais des actes sadiques, là. Vraiment intense. Je pourrais même pas à cette heure-ci, je pense, vous résumer tout ce que j'ai entendu durant ce procès-là. Puis ça a duré un an et demi, 2 ans à peu près, les sévices qu'elle a subis. C'est terrible. Puis elle s'est tenue debout pendant 3 jours. Non seulement c'est ton avocat à toi, ça va, qui va te questionner, t'es préparé à répondre à ces questions-là, mais après, tu dois faire face à ce que l'avocat de la défense, lui, va te poser comme question. Puis il va vouloir aller contre-vérifier chacun des actes, un par un, seconde par seconde. On va poser des questions épouvantables.
Oh, oui.
En tant que femme, quand t'assistes à un procès comme celui-là, tu te dis, hey, moi, là, est-ce que j'aurais continuer le processus judiciaire, sachant que j'allais avoir à passer à travers cet interrogatoire.
Non.
Mais le pire, en fait, c'est que, en plus, souvent, on est conscient de la culpabilité de la personne et on est aussi intense simplement pour diminuer la peine de quelqu'un qui a été tout simplement horrible envers une personne qui méritait rien d'autre que la paix d'esprit. Là, ouais. Sa vie est chamboulée. Puis pour éviter que la personne qui va être reconnue coupable soit trop longtemps en prison, on fait subir encore et resubir la situation à la personne qui est la victime.
Oui, puis cette histoire-là s'est retrouvée dans les journaux à tous les jours. Elle pouvait lire ce qu'on avait écrit à la radio, ce qu'on avait dit à la télévision. Moi, je considérais que c'était vraiment incroyable que cette femme-là ait pu témoigner comme celle-là, puis tu sais, elle a été prise dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Tout est relié, tu sais, sur l'emprise qu'un homme peut avoir. Puis oui, tu peux douter de ses agissements à elle. Puis elle dit, moi, finalement, est-ce que j'étais un peu consentante? Pas du tout. Tu sais, c'est tout ça qui est amené dans le procès. Puis la personne, elle doit encore réaffirmer, rejustifier comment elle se sent. Moi, j'ai chapeau à ces gens-là. C'est vrai que c'est très ardu comme processus.
8 heures pile.